Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Oussem Loussaïès, Thibaut Giangrande.
Bon, on y est là.
C'est l'heure.
C'est le moment. C'est un autre grand moment.
L'histoire.
Parce qu'aujourd'hui, et il y en a énormément. Manu Lamoureux, c'est toujours là, évidemment, comme tous les dimanches après-midi.
Ah, c'est pas de ça que tu parles
ouais, si,
ah, je pensais que tu parlais de ça.
Et tous les dimanches, Manu, Manu. Pour la Ligue 1 et cette 11e journée, c'est toujours la mi-temps, bien sûr, entre Nice et Lyon. L'OL mène 1-0 grâce à un but de Toko Ekambi à la 35e. On va vivre, évidemment, cette deuxième période à suspense dans quelques minutes. Mais dans ce dimanche incroyable qui nous attend tous ensemble, dans 4 minutes,
exactement,
le départ du Grand Prix MotoGP de Misano en Émilie-Romagne, qui peut permettre à un Français d'être sacré pour la première fois de l'histoire champion du monde dans la catégorie Rennes. Ça va être un Grand Prix commenté sur RMC par la Dream Team. Paul Lafitte, Jean-Luc Roy, salut les gars.
Salut Thibaut, salut Oussem.
Salut les gars.
Salut.
Il y a un truc un peu particulier,
Manu,
messieurs, quand même.
Salut,
là.
Salut Manu.
Je vais commencer à aller par toi, Jean-Luc, parce qu'on est à l'aube, même pas ça, on est à 5 minutes de quelque chose qu'on n'a jamais connu en France, en fait, tout simplement.
Ah ben écoute, je dois avouer que j'en suis vraiment, vraiment très ému. Tu sais que je suis les sports mécaniques depuis longtemps. J'en suis absolument passionné. J'ai vécu les Grands Prix et les victoires à l'époque, notamment de Christian Sarron, de Jean-Louis Tournadre, de Patrick Ponce même. Tu vois, ça remonte un petit peu loin. Les victoires en Grand Prix également de Régis Laconi. Bref, on va très, très loin. De Johann Zarco, les deux titres de champion du monde en Moto2. Et là, effectivement, la tâche va être difficile, hein, puisqu'on va entrer dans le détail. Il part 15e, on l'a dit. Jamais Fabio Quartararo ne s'est aussi mal qualifié depuis son arrivée dans le monde du MotoGP en 2019. Et à l'inverse, eh bien, son adversaire direct, Francesco Bagnaia, lui a signé la pole en passant par la Q1. On va rentrer dans le détail. Mais bref, c'est quasi mission impossible, à mon avis, pour être titré, à moins d'une chute de Francesco que personne ne souhaite.
Évidemment. Quasi mission impossible, tu le disais, Jean-Luc. Paul, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les conditions donc pour que Fabio Quartararo soit sacré champion du monde aujourd'hui?
S'il termine devant le pilote Ducati, il sera forcément titré dans environ 3/4 d'heure. Ou alors s'il ne concède pas plus de 2 points au pilote Ducati, car aujourd'hui Fabio Quartararo compte 52 points d'avance. Il reste 3 courses, donc un total de 75 points à distribuer. Mais comme le précisait Jean-Luc, il est vrai que en partant de la pole position, alors que Fabio partira à 15e, à moins d'un problème mécanique ou d'une chute, on voit mal comment le pilote Ducati, qui s'était imposé il y a quelques semaines sur ce même tracé de Misano, eh bien devrait normalement reculer l'échéance. C'est une première belle de match pour Fabio Quartararo, mais vraisemblablement il faudra peut-être attendre au Portugal dans 15 jours pour voir le pilote Yamaha titré.
Thibaut, les chauvins que nous sommes, qu'est-ce qu'on lui souhaite à Bagnaia? Chute ou problème mécanique?
Une chute, il se fait pas mal, il tombe premier virage, il se relève,
et Quartararo est passé.
Il repart 47e et puis on se quitte bons amis, non?
Voilà,
c'est comme ça qu'on se passe. Bon, Paul, qu'est-ce qui s'est passé, blague à part, pour Fabio Quartararo? Jean-Luc le disait, 15e, il n'a jamais été aussi mal placé sur une grille de départ. C'est quoi? C'est l'émotion?
Les conditions climatiques aussi peut-être.
Non, ce sont les conditions climatiques, car la séance d'essai a eu lieu sur une piste qui était humide, et donc Fabio Quartararo, tout comme Pecco Bagnaia, sont donc passés par la Q1, le système de qualification qui permet aux deux premiers pilotes, aux deux meilleurs temps de cette Q1, de passer en Q2 et d'aller donc disputer la pole position. Et Fabio Quartararo a terminé troisième de cette Q1, une Q1 remportée par Pecco Bagnaia devant Ilker Lecuena. Et même Fabio Quartararo a signé son meilleur temps sous drapeau jaune. Il a donc reculé de 2 places supplémentaires, et c'est pour cette raison qu'il s'élancera à 15e. Sur une piste humide, Fabio n'est pas à l'aise, on le sait, même s'il avait terminé 3e du Grand Prix de France sur le mythique tracé Bugatti. Mais cet après-midi, les conditions sont excellentes. Grand soleil, la piste est sèche, donc on devrait, et d'ailleurs Hervé Poncharal, le team manager de KTM, l'a précisé il y a quelques instants, on devrait assister à une remontée assez rapide de Fabio, qui vise, il l'a déclaré sur la grille de départ, un top 5 à l'arrivée de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Et pour conclure, pourquoi pas dans 15 jours ou dès aujourd'hui, si Bagnaia, on ne lui souhaite pas quand même.
On a réservé pour aujourd'hui, nous. C'est aujourd'hui le championnat du monde et rien d'autre.
Alors, c'est le tour de chauffe, le warm-up. Il est 13h59. Vous êtes sur RMC. Dans quelques secondes, vous allez vivre. On va vivre ensemble le départ de ce Grand Prix MotoGP de Misano, avec la remontée fantastique attendue pour Fabio Quartararo. La deuxième période de Nice-Lyon également dans quelques minutes. C'est la 11e journée de Ligue 1. Toujours 1-0 à la pause pour l'Olympique Lyonnais. Une une 11e journée qui se conclura par le Marseille-Paris Saint-Germain de ce soir, 20h45. Et d'ici là, on suivra le géant de Zolden, la deuxième manche, là, dans la demi-heure qui vient, avec Fèvre et Alexis Pinturo qui sont en embuscade. Les championnats du monde de cyclisme sur piste.
À Roubaix.
À Roubaix. Et puis on aura, allez, aussi, je vous le glisse comme ça, le Classico Barcelone-Real Madrid à 16h15 sur RMC.
Les pilotes qui sont donc sur la grille de départ, le tour de chauffe est terminé. Une pensée également pour Valentino Rossi qui dispute son 430e Grand Prix, son dernier Grand Prix évidemment avant de tirer sa révérence, son dernier Grand Prix à domicile, donc en Émilie-Romagne, à quelques kilomètres de Tavuglia, son village natal. Le départ dans quelques secondes, le drapeau vert est agité, les feux sont au rouge avec Pecco Bagnaia qui est en pole position et qui manque un petit peu son départ. Le meilleur départ pour Jack Miller, le coéquipier de Bagnaia, qui sont en bout de ligne droite, et c'est finalement Bagnaia qui va donc virer en tête au premier virage. Un bon départ également pour Fabio Quartararo. On aura évidemment sa position car tous les pilotes sont actuellement dans les lacets de ce premier tour du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et on voit d'entrée de jeu que Pecco Bagnaia est en train de s'envoler devant Jack Miller. On ne connaît pas encore la position du pilote français. Il s'agit évidemment de celui qui est en tête du championnat du monde. J'ai nommé El Diablo, qui est assez loin. Jean-Luc, un départ prudent pour Fabio qui est 17e de ce classement après quelques les premiers mètres de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Oui, tout à fait, Paul. Évidemment, l'erreur à éviter à tout prix pour Fabio, c'est bien sûr la chute, hein. Donc, il s'est méfié des accrochages dans ce premier tour. C'est toujours un petit peu compliqué. Il a chaussé des pneumatiques médium à l'avant et à l'arrière. C'est son choix personnel. Il avait pu tester ça lors du warm-up ce matin. On a vu pendant les 20 minutes que Fabio était un peu plus à l'aise. J'ose dire, il a signé le 11e temps, alors que Bagnaia a signé le 2e. Donc, il a des pneumatiques, a priori, qui vont tenir, j'allais dire, la cadence jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Maintenant, il doit se lancer dans une remontée. Voilà qui est fait d'ailleurs. Fabio, il a déjà gagné 2 places. Il est 15e de ce Grand Prix.
Oui, effectivement, El Diablo qui a doublé 2 concurrents, Alex Marquez et Joan Mir, l'encore champion du monde en titre, qui perdra sa couronne à la fin de cette saison. Fabio qui entame sa remontée, et on le précisait dans la présentation, messieurs, c'est vrai que Hervé Poncharal, qui connaît bien Fabio Quartararo, disait que avec les qualités de vitesse pure sur du sec, Fabio Quartararo devrait très rapidement remonter. Il est désormais 14e. Il vient de déposer Nakagami, le pilote LCR Honda, alors que devant c'est toujours Bagnaia qui mène la course devant Jack Miller et Marc Marquez. Un petit mot également sur l'autre Français, Johan Zarco, départ prudent, 12e, le pilote de la Ducati Pramac. Mais pour l'instant, donc, ça se passe bien pour Fabio qui est en train de remonter. Pourquoi pas d'aller peut-être déposer Daniele Petrucci. On vient de boucler le premier tour ici, donc, sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, un Grand Prix dominé par l'Italien Pecco Bagnaia, messieurs.
Paul Lafitte, Jean-Luc Roy, le Grand Prix MotoGP de Misano, c'est sur RMC à la radio, la remontée de Fabio Quartararo. On la vit ensemble, ce Grand Prix. On revient très vite vous voir, messieurs, dans l'intégrale.
Allez, retour au football. La deuxième période de cette 11e journée entre l'OGC Nice et l'OL a démarré. Clément Brossard, l'OL mène toujours 1-0.
Ouais, c'est reparti depuis une minute en seconde période. Et allez, Fabio, évidemment, tout Nice est derrière lui. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Karl Toko Ekambi, buteur à la 34e minute. On s'attendait à avoir des changements, notamment peut-être la sortie de Flavius Danilu qui était en difficulté à la place de Jordan Lotomba. Mais non, on est resté sur le même 11. Lucas Paqueta qui va arriver dans la surface de réparation. Niçois qui va pouvoir décaler. Aouar, la frappe d'Aouar croisé qui passe juste à côté du poteau droit de Walter Benitez. C'était la première grosse opportunité pour l'Olympique Lyonnais. Après 1 minute 30 seulement dans cette seconde période, les Niçois sont un peu restés au vestiaire sur ce coup-là. Toujours 1-0 pour l'Olympique Lyonnais.
Et Manu, encore une fois, Lucas Paqueta qui fait la différence dans la surface de réparation. Il arrive à se débarrasser de deux Niçois pour donner le ballon pour Aouar.
Ouais, il arrive à avoir un contre favorable pour lui, et puis il sert bien à Aouar qui malheureusement croise un peu trop son tir, et ce tir passe à côté. Mais c'est vrai que les Niçois n'y sont pas rentrés des vestiaires, ils sont encore dans les vestiaires, parce que une action comme ça, au lieu de prendre eux le jeu à leur compte et mettre la pression sur les Lyonnais, ça a été le contraire. C'est Paqueta qui arrive à récupérer ce ballon là et à mettre en difficulté les Niçois sur quoi, sur deux touches de balle,
c'est ça. Et puis surtout la passe initiale, Manu, qui passe dans le dos dans l'intervalle, et il y a des boulevards entre les défenseurs niçois.
Ouais, le contrôle encore de Paqueta pour faire la différence au milieu de terrain, pour lancer Karl Toko Ekambi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de lui cette saison, hein, mais quand on le voit à l'œuvre, le Brésilien, c'est succulent, vraiment, dans ses touches de balle, dans ses prises de balle, dans sa projection vers l'avant. Il réalise encore un très bon début de partie, Lucas Paqueta, même si là il est repris par Jean-Claire Todibo et Kefren Thuram. Il faut se mettre à deux pour stopper le Brésilien, avec Andy Delors qui va être alerté par un long ballon en profondeur, finalement récupéré de la tête par Jason Denayer. Les Lyonnais vont pouvoir se relancer sur le côté gauche, dans le camp niçois. La mauvaise passe de Karl Toko Ekambi, buteur en première période et qui permet à l'Olympique Lyonnais de mener toujours un but à zéro après 34 minutes. Je ne sais pas ce que t'en penses, Manu, mais moi je vois ces Lyonnais extrêmement sereins depuis le début de la partie, et même Peter Bosz sur son banc, à l'inverse de Christophe Galtier que je trouvais un petit peu tendu, et bras croisés en train de faire des petits pas. Il voit et il observe que tout se passe bien pour lui et pour ses hommes.
Clément, c'est tout ça, c'est la faute des Niçois, parce que déjà les Niçois n'ont pas joué cette semaine alors que Lyonnais oui, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, ils sont attentistes, ils vont pas presser, ils tentent rien, il n'y a pas de jeu collectif au milieu de terrain. Qui a récupéré le ballon, et ben ils essaient de chercher en profondeur Dolbert ou Delors, donc il n'y a rien qui se passe, donc c'est ça qui est problématique. Et quand on voit la qualité technique des Lyonnais, ben, ça fait la différence.
Oui, attention à cette passe un peu approximative de Jérôme Boateng vers Anthony Lopez. Il était à la réception, Casper Dolberg, mais finalement il a pu s'en sortir, le gardien lyonnais. C'est peut-être ces petites erreurs là de déconcentration à certains moments qui vont coûter cher à ces Lyonnais. Toujours un but à zéro pour l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Nice après 49 minutes.
Merci Clément. 14h06 sur RMC.
L'intégral foot continue. Merci encore pour vos messages sur le direct studio, le hashtag RMC Live. Vous êtes nombreux à nous dire que vous vivez ces moments avec nous un peu partout dans le monde. On lira tout à l'heure si on a le temps, mais parce que là les directs se bousculent, ça y est, cette journée de folie est définitivement lancée, parce qu'à côté de ce Nice-Lyon, on a la MotoGP et la course au titre mondial, la remontée de Fabio Quartararo. Paul Lafitte, Jean-Luc Roy.
Il est bien après trois tours de couvert sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Fabio Quartararo est en 12e position, un Grand Prix mené par Pecco Bagnaia devant Jack Miller et Marc Marquez. On rappelle que le pilote officiel Yamaha avait bien démarré cette course en 15e position, alors que là c'est une chute, la chute terrible pour le pilote Ducati. Eh bien il s'agit de Jack Miller. Jack Miller qui a qui était derrière son coéquipier, qui poussait derrière. On avait vu une chaleur à la réaccélération au bout de la ligne droite pour le pilote Pecco Bagnaia. Et bien là Marc Marquez est désormais deuxième, et Fabio qui gagne une place, Jean-Luc, désormais 11e de cette course ici en Émilie-Romagne.
Et oui, et de surcroît, Paul, c'est une protection entre guillemets pour Pecco Bagnaia qui vient de disparaître, oui. Parce que Jack Miller, l'Australien qui avait remporté deux Grands Prix en début de saison et qui est actuellement quatrième du championnat avec 149 points, avait dit qu'il protégerait le leader, qu'il jouerait le jeu de l'équipe, et il avait résisté à la remontée d'un excellent Marc Marquez. On rappelle que Marquez a remporté lui aussi deux victoires cette saison après sa terrible blessure et son retour en Grand Prix. Marquez est parti septième, il est extrêmement rapide, et l'un des alliés de Quartararo, bien sûr, eh bien c'est Marquez. Si Marquez passe devant Bagnaia, il va emporter les 25 points de la victoire. On n'en est pas là, hein. Il reste 23 tours à parcourir. À signaler également deux autres chutes conjointes, celle de Danilo Petrucci et sa KTM, et celle de Johan Mir avec la Suzuki.
On va y arriver, les gars, on va y arriver.
Et on notera quand même le geste assez sympa, Jean-Luc, de Johan Zarco, hein, qui s'est fait doubler évidemment, oui, par Fabio Quartararo. Il n'a pas insisté évidemment, le pilote Ducati Pramac.
Ah, c'est sympa. Il est donc 11e, hein, c'est ça, Fabio Quartararo.
11e, ouais. Et il reste encore 23 tours à couvrir, messieurs, ici en Émilie-Romagne.
La course est encore longue, il peut encore remonter, il va encore se passer beaucoup de choses sur ce Grand Prix d'Émilie-Romagne, 14h08.
Après-midi exceptionnel sur RMC avec plein de matchs, plein de rendez-vous. On suit ensemble la MotoGP et aussi le foot, la 11e journée de Ligue 1.
Amine Gouiri, le centre d'Amine Gouiri, parce qu'il y avait une opportunité pour les Niçois. Melvin Barr qui avait lancé son ancien coéquipier à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Niçois, Amine Gouiri sur le côté gauche, et finalement la très bonne couverture de Léo Dubois qui était bienvenu pour stopper l'élan du Niçois, et derrière la tête de Jérôme Boateng pour repousser le danger. Les Lyonnais qui ont frappé deux fois au but là sur ces dernières minutes. D'abord Kadewere, une frappe contrée en corner par la défense niçoise. Ensuite Boateng qui a tenté sa chance de loin, mais sa frappe trop molle, beaucoup trop molle pour inquiéter Walter Benitez. Mais on sent pas de réaction pour l'instant de la part des Aiglons. Ouais, Lyon maîtrise, Manu.
Ouais, il y a pas de niaque de la part des Niçois. Voilà, ils laissent tranquillement les trois défenseurs centraux tranquillement promener le ballon à droite, à gauche. Après, il trouve dans l'axe. Voilà, il y a aucune pression, il y a aucune envie d'aller chercher le ballon et de le récupérer haut. Voilà, l'équipe, au fur et à mesure que les Lyonnais vont avancer, eh ben ils vont reculer, les Niçois. Et à force de reculer, eh ben ils vont avoir des occasions contre eux.
Oui, il faut se réveiller parce que sinon les supporters niçois vont zapper sur la moto, sur le ski où les autres niçois sont en train de briller.
Justement, raconte-nous Clément, est-ce qu'on suit particulièrement à Nice ce Grand Prix peut-être historique de MotoGP?
Oui, on le suit. Alors,
parce qu'on rappelle que Quartararo est niçois, bien sûr.
Tout à fait. Alors, il est né à Nice et il a fait ses premiers tours de mini-moto, ses premiers tours de piste à 6 km de l'Alliance Riviera au Club Centaure. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le président du Club Centaure, Jean-Marc Marcarian, et son fils qui est un ami de Fabio Quartararo, un ami d'enfance, qui seront sur les dents vraiment pour regarder ce Grand Prix et qui espéreront évidemment que Fabio Quartararo soit sacré champion du monde. Mais on suit particulièrement attention, on va suivre quand même cette action avec Kefren Thuram qui est sorti là dans la surface de réparation, la grande sortie également d'Anthony Lopez. Faute finalement pour le gardien lyonnais, il y a eu un choc dans la surface, les supporters niçois réclamaient le penalty. Finalement, ce sera une remise en jeu pour les Lyonnais. Et pour revenir sur Fabio Quartararo, il sera particulièrement suivi évidemment, la mairie également garder un œil sur cette course et a hésité à mettre un écran géant dans la ville. Mais bon, le fait que cette course se dispute en même temps que Nice-Lyon, ça n'arrangeait pas tout le monde. Oui. Mais en tout cas, Christian Estrosi, qui est un grand fan de moto, hein, vous le savez, suit particulièrement Fabio Quartararo et l'invitera à Nice pour, je ne sais pas s'il lui remettra une médaille de la ville. En tout cas, il le célébrera si jamais Fabio Quartararo arrive à décrocher ce titre de champion du monde. Donc oui, il y a une vraie passion pour Fabio autour de ces Niçois qui regarderont la moto et qui regardent en ce moment même un écran sur la moto, un écran sur le foot. Et vous qui êtes sur RMC, évidemment, vous pouvez faire.
Et le peuple niçois attend donc la performance de Fabio Quartararo et on y retourne, tiens Thibaut.
Oui, pas besoin de zapper sur RMC. Nice-Lyon, toujours 1-0 pour l'OL et en même temps, on vous emmène à Misano pour ce Grand Prix MotoGP où Fabio Quartararo tente une remontée incroyable pour aller chercher son premier titre mondial. Jean-Luc Roy et Paul Lafitte.
Oui, le petit prince du MotoGP qui vient d'intégrer le top 10. 10e position pour Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia qui est toujours en tête. Et si le classement restait là, eh bien, le leader du championnat du monde ne compterait plus que 33 points d'avance, Jean-Luc, sur Pecco Bagnaia. Mais il reste encore évidemment 20 tours à disputer ici en Italie.
Oh oui, et puis Marc Marquez se fait de plus en plus pressant sur le leader Pecco Bagnaia. Il n'a rien à perdre et tout à gagner, le pilote Honda, déjà vainqueur de 57 Grands Prix. Alors il est troisième dans l'histoire de la moto, puisque Valentino Rossi, qui tu le signalais Paul, effectivement, fait ses adieux au public italien. Il reste encore bien sûr deux Grands Prix à disputer, en Algarve et à Valencia, mais Valentino Rossi compte 89 victoires. Giacomo Agostini, qui est présent ici et avec ses 15 titres de champion du monde, 68 victoires, je le disais, Marc Marquez pourrait augmenter son capital. Donc effectivement, la protection Jack Miller, la cuirasse de Jack Miller pour Ducati, puisqu'on avait une première ligne Ducati, eh bien, a volé en éclats après la chute de Miller. Ça veut dire que Marquez va tout faire absolument pour passer Bagnaia, et Bagnaia lui aussi veut repousser l'échéance, on l'a bien compris.
C'est ce que j'allais te dire, Jean-Luc. Est-ce que Bagnaia peut se dire je laisse passer Marquez, c'est pas mon problème de laisser passer Marquez, ou est-ce qu'au contraire la première place est primordiale pour lui?
Non, il peut le faire, effectivement. Il va jouer avec sa tête. On l'a vu très, très lucide pendant toutes les séances d'essai et depuis le début de la saison, évidemment, depuis qu'il s'est remis dans le coup après ses victoires récentes hein, de Pecco Bagnaia. Je pense que si il sent que Marquez est plus performant que lui aujourd'hui et veut à tout prix cette victoire, eh bien, l'objectif est atteint pour lui, c'est de repousser l'échéance au prochain Grand Prix. Donc, il ne fera pas tout pour remporter cette victoire, même si, évidemment, on imagine l'impact qu'elle aurait. Un pilote italien sur une Ducati devant une foule en délire, ce serait évidemment une victoire magnifique pour Pecco.
Et rapidement, Paul, Fabio Quartararo est dixième et il arrive à présent sur deux pilotes. Il va y avoir big bagarre avec Alex Rins et Jorge Martin.
Effectivement, c'est une bagarre de chiffonnier à coup de dixième et bien de seconde sur ce tracé magnifique d'Emilie-Romagne, baigné de soleil en Italie. Fabio Quartararo toujours en dixième position, un Grand Prix mené par Pecco Bagnaia, 19 tours à couvrir, mais El Diablo va remonter, c'est certain, et devrait normalement déposer d'ici 2 à 3 tours. Et Jorge Martin, le pilote de Ducati Pramac, et Alex Rins, c'est fait d'ailleurs. Fabio Quartararo en 9e position, il vient de déposer Jorge Martin.
La remontée de Fabio Quartararo, elle est là, ça continue. 19 tours encore dans cette course du Grand Prix de Misano. C'est à vivre sur RMC. Le temps, le score en Ligue 1, la 11e journée, Nice-Lyon, Clément Brossard.
57e minute de jeu à l'Allianz Riviera, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le buteur Karl Toko Ekambi, corner à venir pour les Lyonnais. Au second poteau dans les bras de Walter Benitez. 1-0 pour les Gones.
C'est énorme cet après-midi, Manu, hein. On est bien là sur RMC.
Ouais.
La bonne nouvelle,
c'est magnifique.
C'est qu'on revient dans un instant pour suivre, accompagner Fabio Quartararo à la quête de son titre de champion du monde. Et cette deuxième mi-temps à suspense entre Niçois et Lyonnais, vous êtes sur RMC, l'intégral foot continue avec Manu Amoros et vos nombreux messages toujours sur le hashtag RMC Live et le direct.
RMC Intégral Foot Liga. Intégral Foot.
J'ai 66 ans, c'est la première fois que je me balade sur un GP avec un drapeau français.
He is very fast.
Il est très rapide, je l'aime beaucoup car il est à moitié italien. C'est un gars cool.
On peut avoir la belle image de la passation entre Rossi et Quartararo.
Oussem Loussaïès, Thibaut Giangrande.
Emmanuel Amoros, il est 14h17, ça y est, on est lancé dans cette journée, ce dimanche 24 octobre, exceptionnel pour le sport et le sport français, on l'espère. La moto, vous l'entendez, oui, c'est le dernier Grand Prix de Valentino Rossi en Italie, dernier Grand Prix de sa carrière en Italie, mais c'est surtout le Grand Prix qui peut permettre à Fabio Quartararo d'aller chercher le premier titre mondial. On le suit en direct sur RMC. On suivra également dans quelques minutes le deuxième passage d'Alexis Pinturo sur son géant de Zolden.
Mais depuis 13h, on suit aussi du football. La 11e journée de Ligue 1. Choc pour une place sur le podium entre l'OGC Nice et l'OL. Clément Rossard.
L'occasion énorme pour Lyonnais à l'heure de jeu. Tino Kadewere qui récupère un ballon là au deuxième poteau dans l'angle de la surface. Il n'a personne devant lui. Il dévisse un peu l'occasion. Sa frappe. Il ne cadre même pas face à Benitez. C'était une vraie occasion de faire le break, Manu, là-dessus.
Ah ouais, complètement, hein, complètement. Mais dis-moi, Clément, Galtier, il ne s'excite pas un peu sur le banc pour faire des changements parce qu'il ne voit pas son équipe qui prend l'eau de toutes parts et qui n'avance pas, franchement.
Je suis d'accord avec
toi. Il devrait mettre un peu plus de je sais pas moi, un peu de sang frais pour animer un peu soit l'animation défensive qui est par moment pas trop mal, mais surtout l'animation défensive qui est vraiment pas très bonne. Hein.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi et je regardais justement les remplaçants partis à l'échauffement. Il y a Youssef Attal, Alexis Claude Maurice et Lucas Dacunha, et je ne sens pas dans cette seconde période un Christophe Galtier énervé. Il n'est même pas dans sa zone technique, il n'est pas debout à l'inverse de Peter Bosch, il est assis sur le banc et je trouve honnêtement après une heure de jeu que pour l'instant le résultat qui se dessine n'est pas bon pour Nice, et surtout que Christophe Galtier a peut-être une petite part de responsabilité dans cette défaite puisque ses choix ne sont pas bon pour l'instant, il faut le dire. Bon, la présence de Dani Huck sur le côté droit de la défense, ça n'a pas marché. Amine Gouiri excentré sur le côté gauche, ça n'a pas marché. Hicham Boudaoui, ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Donc pour l'instant, c'est pas forcément.
Quand ça fonctionne pas, il faut changer. Ouais. Attal, il peut prendre la place du joueur qui est central et qui s'invente. Qui s'invente complètement à droite.
Nice, la frappe de Kefren Thuram, elle est contrée. Ce sera un corner pour Nice. 1-0 toujours pour Lyon, 61e minute de jeu.
Nice n'a pas encore perdu. Il reste une demi-heure et on va suivre cette fin de match évidemment qui sera à suspense. On retournera sur la MotoGP également. Fabio Quartararo 9e toujours, il reste 15 tours donc on va y retourner dans quelques instants. Mais à 14h19 sur RMC, un autre champion français est en piste, c'est Alexis Pinturo, deuxième manche du géant de Zolden. Arnaud Souk,
allez, quasiment sur la fin de son passage, Alexis Pinturo sur le bas de la piste. Pour l'instant il est toujours dans le vert, 6e tour de la première manche. Alexis Pinturo qui va en terminer avec sa deuxième manche dans quelques instants. Est-ce qu'il va passer devant Adamus River? Je pense oui, parce que ce plat est plutôt bon pour Alexis Pinturo. 2-06-56, 6 centièmes d'avance sur l'Américain pour Alexis Pinturo.
Merci Arnaud, on te retrouve dans quelques minutes pour le passage d'un autre Français, puisque Mathieu Febvre, le champion du monde de la spécialité, va réaliser le deuxième temps de la première manche derrière l'Autrichien Leitinger. On se retrouve Arnaud dans quelques minutes, 14h20, direction la MotoGP, retrouver Paul Lafitte et Jean-Luc Roy. La course du titre peut-être pour Fabio Quartararo, le Français continue-t-il sa remontée, messieurs?
Pour l'instant, le pilote Yamaha est toujours 9e, mais il y a un paquet de pilotes. Alès Espargaro, Francesco Morbidelli, le coéquipier de Fabio Quartararo, Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, Alex Rins, qui se tiennent en une petite seconde. Et on voit là Alex Rins qui est en train de déposer Luca Marini. Et d'ailleurs, une petite image sympa, le demi-frère de Valentino Rossi porte une combinaison jaune fluo, de la couleur évidemment des fans de Valentino Rossi, avec marqué dessus Grazie Valle, pour remercier évidemment Valentino Rossi, l'un des plus grands pilotes que la moto ait connu, qui, on le rappelait en début de retransmission, dispute sa dernière course ici à domicile. Valentino Rossi est un bon dernier de ce Grand Prix pour l'instant, un Grand Prix dominé, Jean-Luc, par Pecco Bagnaia devant Marc Marquez et Fabio. Jean-Luc qui est en train de buter sur ses rivaux pour essayer de continuer sa progression au classement.
Absolument, oui. Il est à 3-4 dixièmes environ, mais il laisse la situation se décanter. Il reste encore 14 tours. Nous ne sommes pas encore à la mi-course et je pense qu'il contrôle bien la situation. On rappelle que Sayama est équipé de deux pneumatiques médiums, à la différence d'ailleurs des deux leaders de ce Grand Prix. Francesco Bagnaia a opté pour un pneu dur à l'avant, un pneu médium à l'arrière, à l'inverse de Marc Marquez qui lui a un médium à l'avant et un soft à l'arrière. Ce sont des indications très intéressantes pour la fin de course, naturellement. On peut préciser que depuis 2007 également, sur ce tracé, eh bien seulement 5 pilotes se sont imposés depuis la pole position, d'où est parti Francesco Bagnaia, qui a lui signé la 5e pole depuis le Qatar et la 4e consécutive avec Ducati également, qui monopolisait la première ligne de cette grille de départ. Et c'est la première fois dans l'histoire de Ducati. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de premières dans le cadre de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne.
Motif d'espoir évidemment pour le pilote Yamaha qui est en train de se battre avec Alex Rins et Luca Marini. Il reste 14 tours à couvrir ici en Italie. Pecco Bagnaia, le dauphin au classement général du pilote niçois Fabio Quartararo, est toujours en tête avec assez basque Marc Marquez. Il y a après un trou pour retrouver en troisième position Paul Espargaro pour l'instant. Donc les positions sont figées ici, et si le classement restait là, Fabio Quartararo ne compterait plus que 34 points d'avance à deux courses de la fin de ce championnat du monde.
Merci Paul Lafitte, Jean-Luc Roy. On se retrouve très vite évidemment. Il reste encore 13 tours dans cette course qui peut donc sacrer à la fin Fabio
Et messieurs,
Quartararo.
Une place de plus de gagner pour Fabio Quartararo qui est même peut-être 7e. Il vient de déposer Luca Marini. Deux places de gagner en l'espace de quelques tours, mais c'est un mano à mano entre le demi-frère de Valentino Rossi et Fabio Quartararo qui, la poignée de gaz dans le coin, la visière baissée en position de recherche de vitesse, est en train de revenir à hauteur donc du pilote italien. Une place de gagner pour Fabio Quartararo qui est désormais 8e de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Il y a 13 tours de l'arrivée. Un Grand Prix, on le rappelle, dominé pour l'instant par Pecco Bagnaia devant Marc Marquez.
Merci Paul, on revient très vite en Italie. On retourne également à Nice, l'Allianz Riviera. Lyon mène toujours 1-0. C'est l'heure du coaching pour Christophe Galtier. On aura également la deuxième manche du géant de Zolden pour Mathieu Femme, notre champion du monde. Tout ça c'est juste après le défi hippique sur RMC.
RMC, le défi
hippique avec Frédéric Kita. Salut Frédéric.
Bonjour à Thibaut, bonjour Oussem, bonjour Manu, bonjour à tous. Aujourd'hui donc direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le Quintet Plus avec 16 galopeurs qui s'affrontent sur la distance de 2200 mètres. Et pour ce défi hippique, j'accueille avec nous un parieur qui a beaucoup de réussite à l'heure actuelle, c'est Olivier. Salut Olivier, comment vas-tu?
Oui, ça va bien, bonjour Fred.
Quel est ton favori dans ce Quintet?
Alors écoute, le Quintet est super ouvert, il y a beaucoup de discussions, c'est un peu à chacun de sien, mais moi je vais dégager la candidature du 7 King Cobra. Pourquoi ? Parce que son habile entraîneur fait un long déplacement depuis la Bretagne. Il va bénéficier de la monte de Yorick Mendizabal qui a gagné un groupe 1 hier. Il vient de reprendre du moral en allant gagner une course facile à Pornichet. Bon, ok, soit, il n'a pas de marge au poids. Néanmoins, avec un bon parcours, le 7 King Cobra devrait lutter pour le podium.
Merci Olivier. Ton cheval est proposé à 18 contre 1, donc c'est un pari assez intéressant pour faire de beaux rapports en tout cas. Ma dernière minute dans ce quintet, c'est le numéro 1 Villaro qui apprécie le terrain très souple, qui est très expérimenté à ce niveau de la compétition, et son entraîneur David Smaga que nous avons eu hier dans l'émission Les Courses RMC était confiant pour le voir jouer un premier rôle. Donc je rappelle la règle pour ceux qui nous écoutent: si le numéro 7 King Cobra termine devant le numéro 1 Villaro, Olivier, tu seras de nouveau avec demain. Je te souhaite un très bon quintet et une bonne journée.
Merci. Bonne journée, au revoir.
Salut.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et le deuxième but pour l'Olympique Lyonnais. Le but d'Oussem Aouar, servi là à l'entrée de la surface de réparation. C'est une action qui part de Lucas Paqueta qui ensuite était presque à la dernière passe. Oussem Aouar a trouvé le champ libre devant lui. Une frappe du droit avec un petit rebond juste devant Walter Benitez. On le sentait venir et cette fois c'est fait. Le break pour les Lyonnais. 2-0 après Karl Toko et Cambi. C'est Oussem Aouar qui fait mal aux aiglons.
Manu, les défenseurs niçois sur les talons qui sont vraiment bas, presque au pied de leur gardien de but.
Sur les talons, tu dis, mais ils reculent en permanence. Quand on voit Paqueta qui récupère ce ballon à une touche de balle d'un Aouar a le temps de contrôler, de frapper, ouais, alors qu'il n'y a pas un niçois qui monte sur lui. Surtout que t'es à 16,50 m, quoi. Mais c'est dramatique. C'est dramatique.
On a vu, Manu, à l'image, Galtier demander à ses joueurs de sortir. Je pense qu'ils sont d'accord avec toi. Il est d'accord avec toi. Il voit ses joueurs trop bas.
Oui, voilà, ces joueurs trop bas, ces joueurs sont passifs, alors qu'ils devraient être plutôt actifs dans la recherche du jeu, dans l'agressivité. Il n'y a pas d'agressivité, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie. Voilà, c'est un dimanche, il y a beaucoup d'événements. Ils veulent aller voir peut-être le match Paris Saint-Germain, Marseille-Paris Saint-Germain.
Ben, il suffisait de mettre les AirPods dans les oreilles pendant le match.
Et,
voilà.
et d'ailleurs, ouais,
c'est quand même dramatique par rapport à un club qui veut essayer de concurrencer ces grosses équipes comme Lyon, Marseille, Paris Saint-Germain. Mais avant, il faut quand même rivaliser avec ces clubs-là, ne pas perdre chez des clubs comme Lorient et Troyes, et essayer d'avoir une ambition supérieure à celle qu'il y a aujourd'hui.
Notre championnat, ce n'est pas Paris, Lyon, Marseille, c'est Lorient ou Troyes. Ce sont les mots de Christophe Galtier cette semaine en conférence de presse. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait avoir, surtout sur cette passe de Paqueta au départ. Ils étaient tous sur le côté gauche et Paqueta a trouvé l'ouverture pour décaler de l'autre côté Karl Toko Ekambi. Du coup, le bloc était totalement déséquilibré.
Ouais, et avant le but, avant le but, il y a eu juste une belle occasion des Niçois, hein, un cafouillage énorme.
Tout à fait.
Le temps, le score, s'il te plaît, Clément.
2-0 pour l'Olympique Lyonnais, 70e.
Ah, tu sais, Manu, que j'aime pas te couper, j'aime pas t'interrompre, mais ce dimanche, 24 octobre est particulier, peut-être historique.
Oui, la Marseillaise, peut-être.
Ah, on croise les doigts. On retournera la moto dans un instant parce que c'est celle-là qu'on attend. Mais pourquoi pas une Marseillaise en Autriche, à Zolden pour le géant Arnaud Souk.
Elle sera pas pour Alexis Pinturo, en tout cas la Marseillaise aujourd'hui, puisque le Français sera au mieux quatrième. Marco Odermatt, son adversaire suisse, vient de prendre la première place provisoire. Et à l'instant, c'est un autre Français, c'est peut-être celui-ci qu'il fera résonner la Marseillaise dans quelques minutes sur le bas du glacier du Rettenbach de Zolden pour ce slalom géant d'ouverture. Mathieu Febvre qui a réalisé le deuxième temps tout à l'heure de la première manche et qui pour l'instant est sur le haut du parcours dans cette deuxième manche, 13 centièmes de retard au premier intermédiaire sur le temps scratch de Marco Schwartz. Mais c'est là que Mathieu Febvre peut faire la différence, même si son entrée dans le mur, dans ce terrible mur du Rettenbach, a pas forcément été idéal. Il a mis beaucoup de dérives, mais il a un petit peu, on va dire, glissé sur le haut de la pente. Mathieu Febvre, on va voir ce que ça donne au deuxième intermédiaire. Ouais, 38 centièmes de retard pour Mathieu Febvre. C'est pas très très bon le passage du Français. Faut faire attention pour le podium parce que c'est extrêmement serré entre Odermatt, Kranjec et Gino Cavizel. On va voir ce que ça donne. Ouais, non, c'est pas bon pour Mathieu Febvre là sur la troisième partie de ce passage et on va voir ce que ça donne au temps intermédiaire. Ouais, 81 centièmes de retard, c'est pas bon du tout pour Mathieu Febvre qui ne montera pas lui non plus sur le podium aujourd'hui. Petite désillusion pour les Français puisque Mathieu Febvre va se classer avec 98 centièmes de retard, 10e, alors que Alexis Pinturo lui reste en 4e position. Il reste un skieur à passer, Roland Leitinger.
Merci Arnaud, on te retrouve dans quelques minutes pour entériner le classement final de ce géant de Zolden, ouverture de la Coupe du Monde pour nos Français sur cette spécialité. 14h29 sur RMC, l'intégral foot avec Manu Amoros. On va retourner au foot dans quelques instants. Les Lyonnais ont fait le break à Nice. Un point rapide sur la MotoGP. Il en est où Fabio Quartararo, Paul Laffite, j'en ai trois.
C'est une place de plus de gagner pour le pilote niçois qui est désormais 6e, collé au basque d'Aleix Espargaró. Et il l'avait dit lors de la pré-grille, il visera un top 5 en partant 15e. Et bien il est à quelques dixièmes de seconde de cette 5e place. Il est en train de limiter la casse, c'est une course dominée toujours par Pecco Bagnaia devant Marc Marquez. Il reste encore, messieurs, 9 tours à couvrir ici en Émilie-Romagne.
Merci Paul. Jean-Luc, 14h30, vous êtes sur RMC, l'intégral foot. Écoutez bien le programme qui suit. Dans une demi-heure, le Multiligue 1 avec 4 matchs en direct sur RMC. D'ici là, dans un instant, la fin de ce Grand Prix MotoGP de Misano en Émilie-Romagne.
8 tours en intégralité pour voir si Fabio Quartararo va être
5e désormais, messieurs.
5e place, Manu. 5e place.
Ah ouais, génial.
Il reste 8 tours et on va voir si Francesco Bagnaia va tenir jusqu'au bout. Rester sur sa moto, ne pas crever un pneu, casser le carbu. On suit ça dans un instant sur RMC. Et puis on tournera à l'Alliance Riviera où Lyon mène toujours à Nice. 2-0, après-midi de folie. Dimanche exceptionnel qui nous emmènera sur RMC jusqu'à minuit. L'after après le Marseille Paris Saint-Germain de ce soir, 20h45. Ne changez rien. Vous êtes sur RMC, à tout de suite.
RMC, intégral foot.
C'est la suite de notre après-midi de folie. Il est 14h32, journée de fou sur RMC au samedi.
La Ligue 1 qu'on suit depuis 13h avec Clément Brossard, le GC Nice qui est en difficulté à domicile face à l'OL.
Ouais, l'Olympique Lyonnais qui mène 2-0 sur la pelouse niçoise. Toko Ekambi à la 34e a ouvert le score. C'est Oussem Aouar qui est venu planter vraiment cette équipe niçoise en difficulté cet après-midi sur son terrain à un quart d'heure de la fin. Ce sont les Gones qui mènent 2-0 dans ce match qui était équilibré au début de rencontre entre deux équipes qui comptent le même nombre de points, mais c'est Lyon qui prend l'avantage.
Merci Clément, on revient dans un instant. La MotoGP, le Grand Prix de Misano en Émilie-Romagne. Derrière ce Grand Prix, il en restera deux. La fin de saison approche. Fabio Quartararo peut devenir le premier Français champion du monde. Paul Lafitte, Jean Lecroix, vous suivez cette course. Le point sur le classement et surtout, expliquez-nous, Quartararo pour l'instant n'est pas champion du monde. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse encore sur cette fin de course pour aller chercher le titre ?
Ça semblera compliqué hein, pour Fabio Quartararo d'aller décrocher le titre, à moins que Pecco Bagnaia ne connaisse un problème mécanique ou alors ne chute. Il reste 7 tours à couvrir et le pilote Ducati officiel est en tête devant Marc Marquez. Les deux pilotes qui vont se disputer la victoire, c'est certain. La troisième position pour Paul Espargaro et Fabio Quartararo. Jean-Luc est remonté en cinquième position, mais il compte quasiment 8 secondes de retard sur Miguel Oliveira à 7 tours de la fin, à 6 tours de la fin de ce Grand Prix. Il semblerait donc eh bien, plus sage pour le pilote Yamaha de conserver cette cinquième position et de limiter les dégâts face à Pecco Bagnaia.
Oui, tout à fait, Paul. Évidemment, il est impossible à la régulière, alors qu'il ne reste que 6 tours pour Fabio Quartararo. Impossible donc de revenir sur Paul Espargaro et Miguel Oliveira. Les deux hommes se battent pour la troisième position. Ensuite, il y a un écart de 7 secondes avec les deux leaders. Je pense une nouvelle fois que le meilleur allié de Fabio Quartararo, eh bien, c'est Marc Marquez, tout simplement. Parce que Marc, et on va le rappeler ici, en 2019, avait battu Fabio Quartararo dans le dernier virage, le dernier tour. Il avait remporté cette victoire alors que Fabio était leader depuis le troisième tour de ce Grand Prix. Donc ça, c'est le jeu du chat et de la souris auquel Marc Marquez est parfaitement habitué. À mon avis, il va, s'il le peut bien sûr, rester dans le sillage du pilote Ducati jusqu'au dernier tour. Donc encore 5 tours à patienter. Et il va planter une attaque au meilleur endroit. C'est le meilleur allié parce qu'évidemment, il y a 5 points qu'il pourrait arracher de la sorte à Pecco Bagnaia. Au lieu de 25 points, il n'aurait que 20 points. On rappelle que dans la situation actuelle, l'écart est de 38 points en faveur naturellement de Fabio Quartararo, 265 points dans l'état actuel de la situation et 38 points d'avance. Une nouvelle fois, ça n'est qu'une échéance repoussée au prochain Grand Prix. Et là, comme vous le disiez, comme tu le disais Paul, à moins d'une chute ou d'un problème mécanique pour Pecco Bagnaia, eh bien le titre, pour le conserver, Fabio, pour l'emporter plutôt, il faudrait naturellement que l'écart soit de plus de 50 points à l'issue de ce Grand Prix.
Et donc concrètement, là, Paul et Jean-Luc, en l'état actuel, il faudrait Quartararo, même s'il finissait deuxième, mais ce qui est, tu le disais Jean-Luc, impossible là, à la régulière, il ne serait pas champion du monde. Il faudrait que Bagnaia vraiment recule dans cette fin de course. Si Bagnaia l'emporte, il n'y a aucune chance. Hein.
Ah non, aucune chance pour le pilote français de décrocher la couronne mondiale. Et sur ce Grand Prix, si les positions restaient là, il reprendrait tout de même 14 points au pilote niçois Pecco Bagnaia. Donc une excellente opération. Il sait ce qu'il doit faire, le pilote Ducati. Il faut gagner, ne pas regarder derrière. Et c'est ce qu'il fait. Il pourrait s'imposer pour la troisième fois de sa carrière en MotoGP cet après-midi. Il s'était déjà imposé, on l'a rappelé dans la présentation. C'était il y a quelques semaines sur ce même tracé. Marco Simoncelli, que l'on salue au passage, décédé il y a 10 ans dans un tragique accident, c'était à Sepang. Et bien Pecco Bagnaia est en train de faire briller Ducati ici à domicile. Il reste 5 tours à couvrir, il compte quasiment une seconde d'avance, c'est le plus gros écart avec Marc Marquez, le pilote Honda Repsol. La 5e position pour Fabio Quartararo qui est donc en train de limiter les dégâts à 5 tours de l'arrivée.
Il est tombé.
Paul Lafitte, Jean-Luc Roy, la moto, le Grand Prix de Misano, qu'est-ce qui se passe?
Il est tombé.
Eh bien non, pour l'instant le classement est toujours Pecco Bagnaia devant Marc Marquez. C'est une chute pour Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia qui chute à l'instant et Marc Marquez qui prend la tête et Fabio Quartararo qui devient champion du monde. Immense Fabio Quartararo qui est désormais quatrième de cette course alors que Pecco Bagnaia était en train de s'envoler, de se diriger vers un nouveau succès. Eh bien il chute, il a perdu les freins à l'avant. Jean-Luc, quelle erreur du pilote Ducati Jean-Luc.
Ah, c'était l'erreur à ne pas commettre, évidemment. On l'avait dit et redit, il fallait qu'il termine ce Grand Prix. Même à la deuxième place, il lâchait 5 points, mais il repoussait l'échéance. Et bien là, quoi que fasse maintenant Fabio Quartararo, et même si lui-même ne terminait pas, avec l'avance dont il dispose, avec les 52 points actuellement, il est sacré champion du monde. Fabio Quartararo est le premier champion du monde français dans la catégorie RN, en MotoGP maintenant, et même en 500 cm3. C'est un événement absolument d'une portée considérable à 22 ans.
Il est tombé, c'est Manu Moro ce qu'il a dit. Alban, Régis, fais-nous péter cette Marseillaise. Fabio Quartararo va être champion du monde. Journée historique pour le sport français. C'est exceptionnel.
Fabio Quartararo, le
niçois qui a lancé un message au sien, puisque Nice revient dans la partie. Youssef Attal sur le côté droit se décale sur son pied gauche et vient loger une balle en pleine lucarne. Anthony Lopez ne veut rien faire. Et bien voilà le petit message de Fabio à distance pour remotiver son club de cœur. Nice revient dans la partie, 2-1 pour Lyon.
Bah, c'est exceptionnel. Alors là, vous êtes sur RMC.
Il est 14h37.
Nous sommes dimanche 24 octobre 2021. Et quoi qu'il arrive, ce jour est historique pour le sport français. La moto, la catégorie reine. Il n'y a pas mieux que la moto GP.
Attends, pas trop vite. Il reste trois tours.
Mais c'est fait pour la fille Jean-Luc Roy.
Il est même désormais sur le podium, Fabio Quartararo, puisqu'il vient de déposer Bastianini. Il va rejoindre, eh bien, au panthéon des pilotes, Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Mick Doohan, Marc Marquez, Wayne Rainey, Eddie Lawson, Freddy Spencer, Kevin Schwantz, Kenny Roberts, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Nicky Hayden ou encore Joan Mir. C'est un jour fantastique pour bien l'écurie Yamaha et pour ce jeune El Diablo, âgé de seulement 22 ans, arrivé eh bien en 2019 en MotoGP, meilleur rookie de l'année, qui avait gagné ses premières courses la saison dernière et qui cette année, à l'image d'un Marc Marquez, a géré son championnat en remportant 5 victoires, en trustant plusieurs podiums. Et là, avec la chute de Pecco Bagnaia, Jean-Luc, eh bien c'est une couronne mondiale qui est offerte à Fabio Quartararo à 3 tours de l'arrivée. On le rappelle, un Grand Prix dominé par Marc Marquez devant Paul Espargaro, son coéquipier. La 3e position pour El Diablo, le pilote du team Yamaha officiel.
Ah, c'est absolument fabuleux, parce que on l'avait senti tendu hein, pendant ces séances d'essai, notamment sur le mouillé. Il voulait à toute force éviter l'erreur, éviter de commettre l'irréparable, éviter de se blesser, de détruire sa moto. Donc il a progressé doucement, calmement. Je l'ai dit ce matin, le 11e temps seulement, peut-on dire, au warm-up, mais c'était mieux que le 15e chrono qu'il avait signé. Et là, eh bien, remonté depuis la 15e position, même s'il avait perdu 2 places dans le premier tour, en étant très prudent, Fabio va monter sur le podium pour décrocher ce premier titre de champion du monde. Et quoi qu'il arrive, il faut le répéter maintenant, il est champion du monde de MotoGP. C'est absolument fabuleux. C'est lui qui succède à Joan Mir.
Faut expliquer, messieurs Paul, Jean-Luc, que c'est mathématique. Même si Fabio tombe maintenant, il aura suffisamment de points pour ne pas pouvoir être rattrapé par Bagnaia sur les deux derniers Grands Prix. C'est mathématique. Même s'il reste deux tours, c'est fait, c'est dans la poche.
Mais non, c'est dans la poche pour Fabio Quartararo, qui, si le classement restait là, eh bien compterait 270 points. Il aurait 68 points d'avance sur Pecco Bagnaia. Il restera deux courses à disputer. Ce sera en Algarve au Portugal et à Valence pour clôturer la saison de ce MotoGP. Et il ne pourra plus être rattrapé. Et même s'il arrivait un incident mécanique ou s'il tombait dans les deux derniers tours, il aurait toujours 52 points d'avance. Il est donc mathématiquement champion du monde de MotoGP à l'âge de 22 ans. Un immense champion qui rejoint, pourquoi pas, Alain Prost, titré en Formule 1, qui rejoint ses anciens coéquipiers qui avaient été titrés, on le rappelle, dans les présentations hier dans les grandes gueules du sport, que ce soit Mike Di Meglio, Arnaud Vincent titré en 125 cm3, Jean-Luc en parlait, Christian Sarron titré lui aussi dans les années 80, ou encore Olivier Jacques, le dernier champion du monde en 250. Eh bien c'est un immense champion qui, eh bien, grâce à sa 3e place et à la chute évidemment de Pecco Bagnaia, Jean-Luc, qui sera titré dans quelques secondes ici sur Paul, ce tracé d'Émilie-Romagne.
Paul, Jean-Luc, ne bougez pas, on fait un dernier point au football à la 11e journée de Ligue 1. L'OGC Nice, l'OL, Clément Brossard, c'est l'OL qui mène et c'est chaud en cette fin de match.
Ouais, fin de match, attention, il reste 6 minutes à l'Alliance Riviera de Buzan pour l'Olympique Lyonnais. Carl Toko et Kambi a ouvert la marque en première période. Aouar a mis le but du 2-0. Attal vient de réduire l'écart il y a quelques minutes. Et là, il y a eu un gros tacle de Tino Kadewere sur Melvin Barr. On verra la sanction de Monsieur Brizard. Mais on est sur une fin de match, attention, entre Niçois et Lyonnais.
Et on va la vivre sur RMC, mais à 14h41, vous êtes dans l'intégral foot avec Manu Amoros. Tout de suite, la direction de Misano en Émilie-Romagne. Le Grand Prix du Sac pour Fabio Quartararo. C'est le dernier tour, last lap
pour Marc Marquez, qui va s'imposer peut-être pour la 58e fois de sa carrière en MotoGP, et sa 3e victoire cette saison après le Sachsenring en Allemagne et après sa victoire au Grand Prix des Amériques, c'était à Austin il y a 3 semaines. Mais on s'intéresse évidemment à Fabio Quartararo, El Diablo, le petit prodige, le petit prince du MotoGP, qui était parti 15e sur la grille de départ, Jean-Luc, et qui est désormais 3e et qui va donc boucler ce Grand Prix, peut-être sur le podium, et décrocher la timbale, la couronne mondiale, donc pour le pilote âgé, on le rappelle, de 22 ans seulement, Jean-Luc.
Ah oui, c'est absolument fabuleux ce qu'a fait Fabio Quartararo. Il est vraiment revenu de l'enfer là, avec cette mauvaise qualification, avec ce mauvais warm-up, avec ces difficultés, on le sait, sur le mouillé, qui sont inhérentes également à la machine. La Yamaha n'est pas à l'aise et là il va devoir se défendre, Fabio, maintenant, contre le retour d'Enea Bastianini. Évidemment, ça aurait plus de classe pour lui de monter sur ce podium.
Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, oui, les deux pilotes qui se sont touchés et Fabio Quartararo qui va peut-être perdre sa troisième position. Bastianini qui va terminer sur le podium. La victoire de Marc Marquez, la troisième de sa saison. Son coéquipier Paul Espargaro qui termine deuxième et Bastianini qui termine troisième et Fabio qui ne sera pas sur le podium pour célébrer sa couronne mondiale. Mais qu'importe ce podium, le titre mondial pour le pilote italien. On voit la mine complètement désabusée de Pecco Bagnaia qui menait ce Grand Prix à 6 tours de l'arrivée, qui a donc perdu l'avant et qui a donc chuté, et bien en portant ses derniers espoirs, et bien de lutter pour le titre jusqu'à la fin de la saison. C'est un immense jour pour la moto française et on voit d'ailleurs Johan Zarco, image très sympa, Johan Zarco qui termine cinquième de ce Grand Prix, venir féliciter Fabio Quartararo, le World Champion, messieurs dames, le World Champion, c'est bien lui, le pilote Yamaha qui disputait son 49e Grand Prix en MotoGP. Des stats hallucinantes avec 15 pole positions, 8 victoires et 20 podiums et une première couronne mondiale. Jean-Luc, quel sacre pour El Diablo.
Les larmes, Jean-Luc, les larmes, on les voit sur les yeux de Fabio Quartararo.
Ah oui, là, effectivement, il ne peut que pleurer de bonheur, pleurer de plaisir. Et je rajouterai à tous ceux que vous avez cités, Eric Mahé, qui est son manager, qui le conseille psychologiquement. On rappelle que Fabio s'était trouvé en tête également du championnat du monde jusqu'à la mi-saison l'an dernier, en 2020, après un parcours formidable. Et puis, il avait un petit peu craqué sous la pression, Fabio. Il avait commis quelques erreurs. Il n'était plus sûr de lui. Et bien là, jusque à ce Grand Prix là où il a géré comme il fallait la pression, Pecco Bagnaia a été formidable également, mais Pecco a commis l'erreur irréparable qu'il ne fallait pas commettre pour repousser l'échéance. Okay. Et c'est le sacre absolu de Fabio Quartararo, le pilote français, donc pour sa sixième saison en MotoGP.
Paul, on revient vous voir très vite, mais c'est fou ce qui se passe à Nice. Justement, la fin de match incroyable, c'est la 11e journée de Ligue 1, Nice-Lyon, Clément Brossard.
Ah, le pénalty pour les Niçois, alors que Lyon va évoluer à 10 après ce carton rouge contre Tino Kalewere. Et Youssef Attal sur la droite de la surface de réparation est touché par Emerson, le pénalty indiscutable donc signalé par Jérôme Rizard, 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. L'occasion au bout du pied droit d'Andy Delors, alors que les esprits s'échauffent entre Lyonnais et Niçois. L'entrée de la surface de réparation, Nice va avoir l'occasion dans quelques secondes de revenir à deux partout. Ouais, ça s'écharpe un petit peu là parce qu'il y a des décisions difficiles à avaler pour ces Lyonnais. Il y a Peter Bosz qui est comme un fou sur son ventouse.
Ils sont juste ces décisions, hein. Kadewari, déjà, il fait un tac assassin sur
Bar.
Ah ouais, premier carton rouge, il n'y a aucun problème sur carton rouge. Et en plus, ils discutent la décision. Alors que, franchement, quand on voit les images, et c'est toujours la même chose, quand on, tout à l'heure, on disait, on a le ralenti, tout ça, mais sur l'action directe, on a bien vu que les deux pieds sont décollés et en avant. Et
là, ouais, Delors, qui va s'élancer. Manu qui va s'élancer face à Anthony Lopez. Le contre-pied! L'esprit de Fabio Quartararo plane ici à Nice après sa victoire champion du monde. Dès qu'il a été champion du monde, dès la chute de Bagnaia, et bien Nice s'est réveillé par Youssef Attal. Et derrière le pénalty d'Andy Delors, ça fait de partout. Il reste 5 minutes, fin de match complètement folle à l'Allianz Riviera. Les deux points serrés du speaker, les deux points serrés de Christophe Galtier. Cette rencontre est folle, messieurs, cette rencontre est folle.
On vous l'avait promis, cette journée de folie sur RMC, il n'est que 14h46, ça va être comme ça jusqu'à minuit. La fin de match dans un instant, parce que la fin est peut-être pas, c'est peut-être pas terminé pour les Niçois, mais on retourne tout de suite retrouver le Niçois du jour, notre champion du monde de MotoGP sous les yeux de Paul Lafitte. Jean-Luc Croix, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe autour de Quartararo?
Et il est en train, eh bien, de descendre de sa moto et d'être évidemment enlacé et par, eh bien, ses plus fidèles lieutenants qui l'ont suivi depuis ses premiers pas en MotoGP. Il n'en croit pas ses yeux. Il pleure évidemment avec un drapeau dans la main, World Champion 2021, le champion du monde, c'est lui. Il succède évidemment à Joan Mir, le pilote Suzuki, eh bien Fabio, qui aura dominé cette saison de la tête et des épaules. Jean-Luc, on le rappelait, 5 victoires, des podiums et une gestion, eh bien, tout au long de cette saison, un petit peu à l'image de ce que faisait Marc Marquez dans ses grandes années, ou encore de Jorge Lorenzo. Eh bien, c'est un immense pilote qui est aujourd'hui titré, Fabio Quartararo. Jean-Luc,
Oui, et c'est tout un symbole, effectivement, qu'il s'impose pour son premier titre de champion du monde. Parce que, évidemment, à n'en pas douter, on peut penser que c'est le début d'une longue série pour Fabio Quartararo, qui n'a que 22 ans. Ça, c'est donc tout un symbole, le fait que Marc Marquez s'impose aujourd'hui pour ce qui est donc la 58e victoire de sa carrière. Il est fou de joie, Fabio Quartararo. On pense à son papa, Étienne également, qui a été pilote de moto, qui a été champion de France en 125 cm3 et qui doit être évidemment élu aux larmes. Lui qui l'a embrassé tout à l'heure, très discrètement, très fugitivement, derrière le stand de Yamaha. Il y avait sa maman également qui était là. Ah, Fabio, il est écrasé de bonheur maintenant. Il pleure devant la tribune aux couleurs de Valentino Rossi. Là aussi, quelque part, un symbole. Le dernier titre de Yamaha en championnat du monde moto, c'était 2015. Et évidemment, Valentino Rossi y a contribué énormément à ses victoires Yamaha. Tout un symbole aujourd'hui sur ce tracé, Marco Simoncelli. Et tu l'évoquais tout à l'heure, Paul, effectivement, on salue la mémoire également de ce fantastique champion italien disparu il y a 10 ans en Malaisie, malheureusement. Ces hommes-là sont des héros, les pilotes moto sont des héros.
Et nous ne sommes pas au Festival de Cannes, mais bien sûr le tracé d'Emilio Romagne est tapis rouge pour Fabio Quartararo, qui est en train d'être acclamé par la tribune Valentino Rossi, et il est en train d'ouvrir un casque et en or, s'il vous plaît, un casque en or avec un dessin qui avait été certainement spécialement fait pour Fabio en cas de titre. Et bien, il est en train de le prendre dans ses bras, il est en train d'être salué comme il se doit par tout un peuple, fan de moto, fan de Valentino Rossi, fan de Giacomo Agostini, et qui est présent aujourd'hui sur ce tracé d'Emilie Romagne et qui va certainement célébrer dans quelques instants Fabio Quartararo, qui est en train de danser. Il y a un DJ qui est également sur place, et c'est un jour immense pour Fabio Quartararo, qui n'en croit pas ses yeux.
Pour Fabio Quartararo, un jour immense pour le sport français. Jean-Luc Roy, Paul Lafitte, votre journée est loin d'être terminée, je vous l'annonce. On vous retrouve tout au long de l'après-midi sur RMC. Dans un instant, les premières réactions, on passera des coups de fil. Olivier Jacques, Christian Sarr, on l'a connu. On va envoyer tous les numéros de téléphone. Fabio Quartararo, dès que possible.
Le troisième but d'histoire. Evan descend, le remplaçant éternel de Christophe Galtier. Le tout jeune au milieu de Seguri, de Sedelor, de Sedelberg. Et là pour mettre une troisième but. Un troisième but synonyme peut-être de victoire pour le GC Nice. À 2 minutes de la fin de la rencontre, il enlève son maillot, le brandit devant les ultra briganti et signe ce troisième. But, c'est énorme, mené 2-0. Nice retourne complètement la situation. Et Nice va peut-être s'imposer. Je vous le disais, l'esprit de Fabio Quartararo est là. À l'Allianz Riviera, Nice est en train de retourner cet après-midi de football. Cet après-midi merveilleuse qui s'offre à nous. Christophe Galtier demande à ses hommes de se calmer. Il reste 2 minutes. Il va falloir nous aussi se calmer, messieurs. 3-2 pour le GC Nice.
La connexion niçoise. Manu, retournement de situation, mené 2-0. Les Niçois font un dernier quart d'heure de folie, Manu.
Ah ouais, incroyable. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec Clément, c'est-à-dire que les changements ont fait du bien à l'Eugénis. Attal sur le côté, il est sur les deux actions qui amènent le premier et le pénalty pour le second but et de Delors. Et après ce ballon qui est vraiment dans un petit espace, on arrive à donner un bon ballon en profondeur. Mais les Lyonnais, je pense qu'ils ressentent la fatigue.
Paqueta
qui va chercher à avoir lancé le ballon contré par Melvin Barr et finalement dans les bras de Walter Benitez. Il reste quoi au chronomètre? 40 secondes. C'était Bruno Guimaraes qui a été servi par Paqueta. Les Niçois vont pouvoir se relancer. Le coup de sifflet de Jérôme Brizard. Il y a beaucoup de tension là dans cette fin de match. Les 25 000 supporters niçois sont en train de sauter, qui ne sautent pas, n'est pas niçois, sont en train de chanter les supporters du gym là, parce que honnêtement à la mi-temps ils pensaient certainement pas que leur joueur favori allait remporter cette rencontre. 40 secondes encore à jouer à
Manu, là c'est c'est l'Europa League de jeudi soir, il y a moins de 3 jours qui a coûté cher dans le dernier quart d'heure au Lyonnais.
Je pense qu'il y a déjà cette grosse fatigue. Les changements ont fait du bien comme il vient de le dire, mais il y a aussi les Niçois qui sont un peu plus hauts, qui ont pressé davantage en pêche. Le carton rouge de Kadewere qui a été important aussi, hein, parce
c'est
que
terminé.
C'est terminé Manu, ouais. C'est ouais, terminé ouais. Oussem, c'est terminé Thibaut. 3 buts à 2 pour le GC Nice. Toko et Kambi avaient ouvert la marque pour les Lyonnais. Aouar avait fait le break et derrière Attal, Delors, Guessant en fin de match, renversante les points serrés de Christophe Galtier et l'Alliance Riviera est en folie. Ils ont réussi à renverser la situation, ils ont réussi à passer devant Lyon au classement à quelques jours de ce match retard face à l'Olympique de Marseille. Ce sera à 3 mercredi. On a vécu un début d'après-midi merveilleux au football mais aussi dans le sport en général et on va se régaler jusqu'à la fin de la journée. Messieurs, c'était magique. Merci à vous, merci Nice, merci Lyon pour ce match merveilleux.
Et on vous l'avait promis après-midi de folie sur RMC tout au long de la journée, que de grands rendez-vous.
Et il est que 14h52, ça va être comme ça jusqu'à minuit au moins ce soir. Merci Manu.
Ouais, merci à vous et on va s'installer sur le canapé alors hein, pour la suite. Ouais,
là, allez, tu t'installes sur le canapé, tu fais comme tout le monde, tu mets RMC, pas besoin de zapper, tu écoutes en fond parce que la suite de cette journée continue. Le foot avec cette 11e journée de Ligue 1, ça s'achèvera ce soir évidemment avec ce Marseille Paris Saint-Germain. Le foot, le classico, le vrai 16h15 Barcelone Real Madrid sur RMC. La Formule 1 puisqu'on parle sport mécanique, le duel Verstappen Hamilton c'est à 21h et la journée partie comme elle est, ça va être un grand prix ça aussi. J'ai hâte. C'est une journée exceptionnelle qui continue sur RMC dans un instant.
Ne vous débranchez pas.
Bon après-midi. Ciao.
RMC Intégral Foot Ligue 1.